On backstage le podcast, ce sont Margot Delpierre, journaliste radio, et Thomas Langlin, technicien supérieur du son. Et ils nous font découvrir les coulisses de la création par la voix de ceux qui font la culture. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de leurs podcasts à cette adresse podcast.osha.co/backstage-le-podcast. Il s'agit donc de la deuxième partie de l'entretien consacré à Constance de Montois, directrice de casting au micro de Margot Delpierre sur un montage donc de Thomas Langlin.
Ça vous est déjà arrivé de ne pas trouver, de ne pas comprendre l'envie d'un réalisateur sur un casting ?
De ne pas comprendre, non. Parfois on comprend, on sent, on voit où on voudrait aller. Et puis dans les fêtes, dans les personnes qu'on arrive à présenter, ou parfois quand c'est du casting dit sauvage, du casting de rue, ça m'est arrivé de sentir que j'arrivais... au bout de mes idées, de mes propositions, de ce que je pouvais amener. Heureusement, ça ne m'est pas trop arrivé.
Comment on sort de cette situation alors ?
Ben, je pense que si c'est le cas, il faut pas hésiter à le dire en fait. Comme tout, c'est-à-dire qu'à un moment, la priorité, c'est le tournage qui arrive, c'est le film, et c'est de préserver aussi le réalisateur. Donc si à un moment, on sent qu'on est usé, qu'on n'y arrive plus, qu'on est à bout d'idées, je crois qu'il faut... et c'est très désagréable pour l'ego, mais il faut aller le dire. Il faut dire, là, j'ai été au bout de mes propositions, j'ai plus rien à amener, et peut-être qu'il faut que tu travailles avec quelqu'un d'autre pour continuer, qui amènera une nouvelle énergie, un nouveau souffle, peut-être d'autres méthodes. Moi, je sais que ça a pu m'arriver, en fait. Il faut savoir où on en est, et si on sent qu'en fait, quelque part, on met le projet en danger, bah, il faut mettre son ego de côté, et puis admettre qu'on est battu, quoi. C'est pas super, mais... Je pense que c'est aussi d'être professionnel à ce moment-là de faire ça.
Et il y a plein de façons de trouver un comédien pour un projet. Vous parliez de casting sauvage, donc dans la rue, etc. Comment vous faites-vous le plus souvent ? Et est-ce que vous variez les modes d'action, j'allais dire ?
Alors moi, j'ai commencé en fait par le casting sauvage avec Laurent Cantet, qui préparait à l'époque un film qui s'appelle « Ressources humaines ». C'était en... 1998, au moment de la première Coupe du Monde, je m'en souviens. Moi, je m'occupais avant de figuration sur les plateaux de petits rôles, donc c'était mon premier casting de rôle important, mais c'était du sauvage. On allait dans des associations d'ouvriers, ça se passait dans un certain milieu, et ils voulaient des acteurs non professionnels. Donc on a travaillé, étalé dans le temps, 6 mois, enfin pas tout le temps. Hein. On cherchait des ouvriers... au chômage, mais c'est une catégorie socio-professionnelle où c'est difficile même de s'exposer quand on est au chômage, etc. Donc il fallait vraiment qu'on aille chercher et puis les motiver à faire le film. Donc j'en ai fait beaucoup au début, et puis c'était une super école. C'est très différent en fait, le casting sauvage, c'est encore plus solitaire. On peut avoir des journées on a l'impression qu'ils ne servent à rien. On a marché, on a cherché dans des endroits, on va dans la rue beaucoup, ou à la sortie des lycées, comme c'est connu. Il y a des jours où on a des belles rencontres, et puis il y a aussi beaucoup de jours difficiles où on trouve pas, où on voit aussi la montre qui tourne, le tournage qui approche, la production qui vous dit tu en es où. Voilà, il y a des jours où on se sent très impuissant avec parfois voilà des rencontres, des moments de grâce, et puis quelque chose qui s'approche... du travail de reportage ou de documentaire, parce qu'en fait, on rencontre vraiment des gens qui parlent d'eux, de leur vie. Enfin, moi, ce que j'adore, c'est cette partie-là aussi, dans la recherche de non-professionnels. Voilà, bon, je me disperse. Plus ça a été, plus j'ai travaillé justement avec des acteurs pros, parce que je continuais d'aller au théâtre, de me renseigner, etc. Et le fait est qu'aujourd'hui, comme je suis toujours à cheval sur 3-4 projets, etc., je peux plus... me rendre disponible comme avant pour un casting sauvage où en fait il faut faire que ça jour, nuit, soir, week-end, etc. Donc personnellement j'en fais plus. Peut-être aussi étant plus jeune, j'étais au tarif stagiaire, etc. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, donc je coûte trop cher. Enfin tout ça fait que je suis pas forcément le bon profil pour continuer à faire du casting sauvage.
Comment vous êtes arrivée dans le casting? Parce que c'est pas un métier qui s'apprend même à l'école, j'ai l'impression. C'est plutôt sur le tas.
Oui, alors c'est pas un métier qui s'apprend à l'école parce que c'est un métier qui ne nécessite pas de compétences techniques. Il faut savoir faire marcher une petite caméra presque de type familial, faire un petit montage vidéo, et puis c'est tout. Et puis avoir un bon relationnel et une connaissance des acteurs. Mais ça, c'est le temps qui fait ça, en fait, cette accumulation de connaissances, d'acteurs, d'expériences. Donc non, ça ne s'apprend pas dans les écoles de cinéma. C'est un peu dommage d'ailleurs, parce que il m'arrive de temps en temps d'intervenir, et des jeunes réalisateurs en école peuvent être très forts en technique et très perplexes au moment de parler à un comédien, parce que finalement il y a aussi ça, en fait, de d'apprendre à parler à un acteur, en fait.
On pense pas assez à l'humain.
Exactement, à l'humain, à renvoyer quelque chose, à formuler sa pensée. Donc non, ça ne s'apprend pas à l'école. Je crois que Fabienne Bichet était infirmière avant. Maya Cerula était script. Enfin oui, on peut venir de pas mal d'horizons différents. Et puis vous avez aussi beaucoup de directeurs de casting qui étaient comédiens au départ et qui sont à un moment devenus directeurs de casting pour chercher d'autres comédiens. Voilà, pour ma part, j'ai été assistante de quelqu'un pendant de longues années. Voilà, où j'ai appris plein de choses, en fait, en l'observant, en étant un petit peu à l'arrière et en la regardant travailler, puis en découvrant grâce à elle plein d'acteurs. J'espère qu'on est comme le bon vin, c'est-à-dire que plus ça va, plus on mieux on vieillit, quoi. Il faut pas tourner vinaigre. Voilà.
Mais à la base, il y a quand même un amour des acteurs, un amour du cinéma et une culture aussi cinématographique, j'imagine, à entretenir.
Un amour des acteurs, j'ai envie de dire, c'est la base. C'est vrai que si on n'a pas de plaisir à les voir, d'empathie avec eux, c'est étrange, quoi. Il y a beaucoup de gestion d'ego dans notre travail, que ça va du réalisateur aux acteurs, aux producteurs, aux agents. Enfin, on est aussi un peu au cœur de tout ça. Oui, il faut aimer, on parlait tout à l'heure de théâtre, aller au théâtre, aller voir dans des cours, et puis dans des théâtres très différents, ça va du théâtre de l'Odéon à des toutes petites salles, à des sorties d'école, à des clubs de stand-up. Enfin, il faut être très ouvert aussi, avoir une palette assez large. Une culture cinématographique, oui, c'est mieux. Moi, personnellement, j'ai pas fait d'école, donc elle est clairsemé, c'est des choses que je prends. Il y a des périodes entières du cinéma que je connais pas bien, mais bon, c'est aussi toute une vie à découvrir. Et par contre, c'est vrai que ce qui est très très important, c'est d'être toujours au courant de l'actualité culturelle. C'est-à-dire, il faut essayer. Moi, j'essaye d'aller voir quasiment tous les films français qui sortent, de voir les séries, d'aller au théâtre, d'entendre parler d'acteurs. Des fois, c'est aussi comme ça. Donc, on est toujours aux aguets de. D'articles, de festivals, de courts-métrages, de longs-métrages. Oui, c'est une recherche permanente, en fait. C'est jamais fini. Chaque année, il y a des nouveaux acteurs qui apparaissent. C'est que vous pouvez pas vous asseoir et vous dire « C'est bon, là, je suis directrice de casting, je sais tout, quoi. » C'est un mode de vie.
Et les directeurs de casting sont perçus comment, alors ? Vous avez quelle réputation dans ce milieu qui est parfois très dur et où il y a beaucoup d'ego, comme vous l'avez dit ?
Alors, comment on est perçu? C'est une bonne question. Et ben déjà, on parlait de 10% où on a un peu l'image attendue du directeur de casting ou de même de la directrice de casting. C'est quand même un métier très souvent féminin, un peu la dent dure. On est souvent un peu caricaturé comme ça, de même que les psys, on les caricature en train de s'endormir quand ils écoutent leurs patients. Nous, on a droit aussi à notre marionnette. C'est sûr que pour mettre les choses en mots, on est là pour trier, en fait, pour aller vite dans les propositions. Si on nous engage, c'est pour se dire qu'en 4-5 semaines pour un long métrage, on n'est pas engagé non plus pour 6 mois en disant « prends ton temps », etc. On a un temps déterminé pour trouver, je sais pas, une trentaine de rôles. Donc c'est sûr qu'on est là pour viser juste dans les idées ou effectivement, comme je vous disais, savoir proposer des choses inattendues. C'est sûr qu'il y a un côté négatif et peut-être pour certains un sentiment d'injustice de pas être reçu ou d'avoir l'impression de ne pas être reçu suffisamment. Je sais que il y a des acteurs et des actrices que je vois régulièrement. Ils savent que je les vois beaucoup sur des castings que je fais, que j'y crois. Et je sais qu'ils sont heureux de venir en rendez-vous aussi. Et puis, on a aussi de temps en temps des castings réussis, des des messages fous de joie qu'on reçoit quand un acteur a son premier grand rôle. Enfin, c'est des étapes super belles. Donc voilà, il faut assumer le côté oui négatif de ça. Après, il y a autre chose. C'est un drôle d'endroit le directeur de casting parce que on est un peu comme une agence de rencontre. C'est-à-dire que on va présenter à une réalisatrice ou un réalisateur plein de possibilités pour son rôle principal. Et puis, à un moment, ça va prendre, la rencontre va avoir lieu. Mais finalement, quand vous lisez les articles par la suite, on a plutôt l'impression que c'est... il est passé, il est entré dans la pièce, il a passé la porte et c'était lui ou c'était elle. Alors que comme je vous disais, en fait, on passe parfois par 4-5 tours de casting, des doutes, des hésitations, des discussions... Donc on est un peu comme des marieurs en fait, comme une agence de rencontre où les gens qui ensuite tombent amoureux, etc., ne veulent pas dire à leurs amis « oui, alors en fait, on a fait appel à une agence de rencontre et c'est comme ça qu'on s'est trouvés ». Ils préfèrent voilà une histoire un peu plus glamour de « ils se sont vus à la terrasse d'un café et ils ont eu un coup de foudre ». Et ben c'est un peu pareil avec le casting en fait.
On enjolive la réalité.
Exactement, surtout que la on n'est pas toujours cité. Mais justement par rapport à ça, parce que les réalisateurs aiment bien garder, ou peut-être même c'est ce qu'ils finissent par se raconter à eux-mêmes, juste le côté coup de foudre et pas tous les candidats qu'il y a eu avant. Voilà.
Ça ne tient pas aussi un peu de l'ego de certains réalisateurs qui ont peut-être du mal à avouer que voilà, oui, ils ont eu recours à quelqu'un d'autre et qu'il y a de l'aide et beaucoup, beaucoup de travail effectivement derrière.
Oui, c'est peut-être ça, de l'ego mal placé en même temps... Faire un film, c'est merveilleux. Donc finalement, est-ce qu'il faut oublier cet endroit de travail du casting? Je sais pas. Je trouve que ça ne retire rien, en fait, à leur travail de dire qu'on a à chercher. Je veux pas généraliser non plus, parce qu'il y a aussi là-dedans des beaux moments de reconnaissance, etc. Donc, bon, on va dire que ça dépend lesquels. Voilà.
Vous avez des exemples de comédiens que vous avez vus justement grandir au fur et à mesure des castings et qui se sont vus offrir leur premier grand rôle. Voilà, des gens que vous avez accompagnés un peu sur la durée comme ça jusqu'à ce qu'ils percent, on va dire.
Oui, il y en a quelques-uns en fait. Toute une génération d'acteurs. Gaspard Ulliel a démarré très jeune. Moi, j'ai souvenir de l'avoir vu, il avait 12 ou 13 ans. J'en avais un peu plus, mais j'étais moi-même dans mes tout premiers. J'étais assistante casting. Pierre Ninet aussi, avant qu'il y ait 20 ans d'écart. Et ensuite Saint-Laurent, il avait fait... Je m'étais occupée d'un film luxembourgeois avec beaucoup de jeunes. Il était dans la bande. Donc oui, c'est des acteurs comme ça qu'on a connus très jeunes. Léa Seydoux, pareil aussi. C'était avant que tout ça prenne de l'ampleur pour elle. Oui, je l'ai vu plusieurs fois en casting aussi. Anaïs de Moustier, qui était déjà formidable, très sauvage. Donc oui, oui, on les voit. C'est-à-dire que des acteurs doués, on en voit beaucoup. Et après, il faut qu'il y ait la bonne alchimie, les bonnes rencontres. Voilà. Et ceux à qui ça arrive, eh ben, on est très, très heureux pour eux, quoi. Et on est même impressionnés de les avoir vus comme ça, si jeunes, et de les voir si haut. Ça peut aller très vite, quoi, une carrière d'acteur, ouais.